Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le pape François recommande l'unité aux cardinaux qui doivent être des hommes de paix armés de compassion et résister à l'esprit du monde. Le Saint-Père a créé ses premiers cardinaux ce samedi dans la basilique Saint-Pierre en présence de son prédécesseur Benoît XVI. Une présence inattendue et longuement applaudie. Et c'est bien sûr au consistoire que sera consacrée une large partie de ce magazine. En fin d'émission, vous retrouverez nos rubriques hebdomadaires, les livres pour Dieu et le commentaire de l'Évangile. L'Église catholique compte 19 nouveaux cardinaux de 15 pays différents, dont 7 originaires du Nouveau Monde. Le pape François a présidé ce samedi matin dans la basilique Saint-Pierre le premier consistoire public ordinaire de son pontificat, en présence de son prédécesseur, le pape émérite Benoît XVI. Assis au premier rang, vêtu de blanc, au même niveau que les cardinaux, une situation inédite saluée par des applaudissements. C'est la première fois depuis sa renonciation que Joseph Ratzinger, qui vit retiré au Vatican, participe à une grande cérémonie publique dans la basilique. Le pape François, qui avait insisté pour qu'il soit présent, s'est déplacé pour le saluer au début et à la fin de la cérémonie.
Petrum Parolin.
Parmi les nouveaux cardinaux figurent 16 électeurs, 4 membres de la curie romaine, dont le secrétaire d'État, Mgr Pietro Parolin, et 12 pasteurs diocésains, dont les archevêques de Westminster, Québec, Abidjan, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Séoul, Ouagadougou ou encore les Cayes en Haïti. Vêtu de pourpre, chaque nouveau cardinal s'est approché du pape et s'est agenouillé devant lui pour recevoir la barrette, l'anneau cardinalis et son titre ou sa diaconie dans un parchemin enroulé. Chaque nouveau cardinal reçoit en effet symboliquement la charge d'une des centaines d'églises de l'agglomération romaine. Il y avait un absent ce samedi matin, âgé de 98 ans, le secrétaire historique de Jean XXIII, Mgr Capovilla, recevra la pourpre des mains d'un délégué du Saint-Père dans quelques jours à Bergame, dans le nord de l'Italie. La cérémonie s'est déroulée selon un rituel très solennel, quelque peu simplifié sous le pontificat de Benoît XVI. Dans son homélie, le Saint-Père a proposé une nouvelle fois sa conception d'une église en mouvement. Il a invité les nouveaux cardinaux à marcher derrière le Seigneur et à se laisser toujours davantage convoquer par lui. Et avec l'ensemble de l'église, il a exprimé sa proximité spirituelle à tous les chrétiens qui souffrent de discrimination et de persécution. Jean-Baptiste Cocagne.
Dans les évangiles, Jésus marche beaucoup. Il n'est pas venu pour enseigner une philosophie, une idéologie, mais une voie, une route à parcourir avec lui. Il faut donc marcher avec Jésus. Et ce, même si la route que Jésus choisit n'est pas confortable, souligne le pape François, avant quelques recommandations.
Diversamente dai discepoli.
À la différence des disciples d'alors, nous savons que Jésus a vaincu et nous ne devrions pas avoir peur de la croix. Cependant, nous sommes nous aussi humains, pécheurs, et nous sommes exposés à la tentation de penser à la manière des hommes et non de Dieu. Si la mentalité du monde prend le dessus, surgissent les rivalités, les jalousies, les factions.
Les rivalités, les invidies, les factions.
Au moment où le collège des cardinaux s'agrandit par l'entrée de nouveaux membres, l'évêque de Rome les a appelés à se purifier intérieurement, à faire la lumière dans leur conscience. « Je vous dis ce dont l'Église a besoin », a-t-il lancé. « Elle a besoin de vous, de votre collaboration et plus encore de votre communion avec le pape et entre vous. L'Église a besoin de votre courage pour annoncer l'Évangile en toute occasion, opportune ou inopportune, et pour rendre témoignage à la vérité. L'Église a besoin de votre prière. L'Église a besoin de votre compassion, surtout en ce moment de douleur et de souffrance dans de nombreux pays du monde. » Et le pape François a terminé son discours par un nouvel appel, le second en deux jours, pour les chrétiens qui souffrent de discrimination et de persécution. Il a demandé que l'on prie afin qu'ils soient forts dans leur foi et qu'ils sachent réagir au mal par le bien. Une prière qui s'étend à tout homme et à toute femme qui subit l'injustice à cause de ses convictions religieuses. Enfin, le pape François a invoqué la paix et la réconciliation pour les peuples qui, en ces temps, sont éprouvés par la violence et par la guerre.
C'est le secrétaire d'État du Saint-Siège qui a remercié le souverain pontife au nom des nouveaux cardinaux. Nous saurons, a-t-il dit, répondre à la confiance que vous nous faites avec fidélité, générosité et persévérance. Le cardinalat n'est ni une promotion, ni un honneur, ni une décoration, mais un service, a-t-il ajouté, citant la lettre que le pape François leur avait adressée au moment de leur nomination. Je vous propose à présent d'écouter l'un des nouveaux cardinaux de terrain choisi par le pape François, l'archevêque de Ouagadougou, Mgr Philippe Ouédraogo.
Je ne suis rien d'autre qu'un instrument quelconque de la sollicitude du Saint-Père qui a voulu considérer avec bienveillance notre Église famille de Dieu au Burkina Faso. D'ailleurs, c'est biblique, dans l'Évangile, le serviteur fait son travail et rien d'autre. Je n'ai jamais rêvé d'être un évêque. On m'a appelé à l'épiscopat, ce n'est rien d'autre qu'un service. J'ai été évêque dans un diocèse à Ouaïga, aux confins du Mali, pendant 12 ans, 6 mois. Et je me suis vu transférer à Ouagadougou, à la capitale, il y a 5 ans, en 2009, sans avoir jamais rêvé d'être ni évêque à Ouaïga, encore moins archevêque à Ouagadougou, encore moins cardinal. Je me demande pourquoi le Seigneur a permis tant de choses dans ma petite existence de chrétien et de pasteur. Alors j'essaie, à la suite de Charles de Foucault, d'accueillir les choses avec l'abandon.
Qu'est-ce qui changera concrètement dans votre travail quotidien maintenant que vous serez cardinal ?
Voilà, vous parlez des pauvres, etc. C'est sûr que je suis né d'une famille très modeste, dans un village de la savane africaine. Donc je suis très sensible à tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'émerger, point de vue école. Dans mon village, il y a beaucoup de camarades d'enfance qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. C'était avant l'indépendance en 1960. Donc je suis très sensible à tous ceux qui sont les laissés pour compte, les défavorisés, les démunis. Et dès que j'ai pris possession du siège de Ouagadougou, mes premières visites, c'était les prisonniers, les femmes qui vivent dans un centre, les femmes marginalisées pour question de sorcellerie, etc. etc. Voilà, c'est un exemple de ce que je porte en moi. Et je pense que, à la suite du pape qui donne le ton dans ce sens, je ne saurais que chercher à intensifier cette attention, cette écoute, cette présence, cette proximité par rapport à tous, et notamment aux plus petits et aux plus pauvres.
Le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou, interrogé par Marie Duhamel. Le Sacré Collège compte désormais 218 cardinaux, dont 122 électeurs. Les Européens constituent encore la moitié des cardinaux ayant droit de vote. Parmi les personnalités présentes à Rome pour le consistoire, deux chefs d'État, la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, et le président haïtien, Michel Joseph Martelly. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères était accompagné d'une délégation d'une quarantaine de personnes. Vendredi soir, Dilma Rousseff a pu s'entretenir avec le pape François. La présidente brésilienne a offert au Saint-Père un maillot de l'équipe nationale brésilienne, signé de la légende du foot, Pelé. En plaisantant, le pape François a alors fait remarquer qu'avec ses cadeaux, on entendait l'invité à prier pour que le Brésil remporte la Coupe du Monde. La présidente a alors répondu qu'on lui demandait au moins la neutralité. Dimanche matin à 10h, tous les cardinaux vont se retrouver à nouveau dans la basilique Saint-Pierre pour concélébrer une messe avec le pape François. Face à la violence de ces derniers jours en Ukraine, la présidence du Conseil des conférences épiscopales d'Europe invite les évêques et toute l'Église en Europe à se joindre à la prière du Saint-Père pour l'Église et le peuple ukrainien en ces jours particulièrement douloureux. La présidence du CCE assure sa proximité spirituelle au peuple ukrainien et appelle tous les citoyens du continent à prier spécialement pour ceux qui souffrent et les familles des victimes. Sur place, les chrétiens catholiques et orthodoxes continuent de prier pour la paix à l'appel de leurs églises respectives. Depuis des semaines, sur la place Maïdan, des tentes servent de chapelle. Les prêtres sont restés aux côtés des manifestants. Des religieux ont prêté main forte pour soigner les blessés. Des violences indicibles sont commises au Katanga. L'alerte a été lancée cette semaine dans une lettre pastorale par les évêques catholiques de cette province, située dans le sud de la République démocratique du Congo. Plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés sont livrés à la violence de groupes armés, en particulier de miliciens Maïmaï qui réclament une meilleure répartition des richesses et des rebelles Bakata qui revendiquent l'indépendance du Katanga. Au nom de cette cause, de nombreux jeunes, dont plusieurs mineurs, sont enrôlés de force, drogués et soumis à des pratiques magiques pour les pousser à voler, piller, violer, torturer et incendier sans aucun état d'âme. Les évêques s'insurgent contre la faiblesse et l'attentisme de l'État central, la mauvaise répartition des richesses, la frustration et l'impunité qui entretiennent ce déchaînement de violence. Mercredi, les Nations Unies ont annoncé l'envoi immédiat d'une centaine de casques bleus dans la province. C'est un nouveau pas vers l'aboutissement de la cause de béatification du pape Paul VI. Les experts théologiens de la Congrégation pour les causes des saints ont approuvé un miracle attribué à l'intercession de Giovanni Battista Montini, une guérison inexplicable pour les médecins consultés par le dicaster. La nouvelle a été révélée par un vaticaniste italien et le Vatican n'a pas démenti. En novembre dernier, lors d'un congrès sur le voyage de Paul VI en Terre Sainte, le cardinal Scola, archevêque de Milan, avait laissé entendre que la béatification de Paul VI était relativement imminente. Avant-dernier volet de ce magazine, place à Catherine Aubin et à son livre « Pour Dieu », vous allez entendre un jeune philosophe qui s'est penché sur la morale du ministre français de l'Éducation.
Cette semaine, un livre pour Dieu qui a pour auteur un philosophe, Thibaut Collin. Celui-ci a écrit de nombreux ouvrages de philosophie morale et politique et nous l'avons interrogé sur son dernier livre qui parle de la morale de Monsieur Payon en lui demandant « De quelle morale laïque parle donc Monsieur Payon ?»
Monsieur Payon s'inspire des républicains de la Troisième République, notamment Jules Ferry et avant lui Edgar Quinet. Donc Vincent Payon, qui est philosophe de métier, connaît bien toute cette tradition républicaine et sous un certain rapport, il veut renouer avec cette notion d'un État éducateur et qui pour cela doit passer par l'enseignement d'une morale. Concrètement, il est clairement impossible d'avoir une morale commune encore aujourd'hui, puisque justement, une des caractéristiques de nos sociétés, c'est pas simplement le pluralisme religieux, c'est aussi ce qu'on appelle le pluralisme éthique, c'est-à-dire que les gens ont des conceptions de la vie humaine, de leur bien, du sens de leur vie, très divergentes. Et donc, à travers cette morale laïque, Payon essaye de prendre l'école comme vecteur pour inculquer des grandes valeurs, disons républicaines, mais qui sont des valeurs qui sont vides de contenu, hein, liberté, solidarité, dignité. Ces valeurs vides de contenu ont un effet de transformer de l'intérieur le statut que chacun d'entre nous donne à ce qui est bon pour l'être humain. Et cette morale laïque est un renforcement de ces grandes valeurs, mais qui ne font qu'accentuer le relativisme ambiant. On va dire que Vincent Payon est un pompier pyromane, ce sera pour là.
Est-ce que Monsieur Payon ne veut pas, finalement, instituer une religion nouvelle ?
Si, alors, d'un côté, il nous dit que cette morale laïque n'est pas au même niveau que les religions et que les convictions religieuses, mais en même temps, il faut bien comprendre que c'est une sorte de matrice qui veut englober les différentes religions. Et ben, on pourrait dire que la morale que nous propose Vincent Payon est une sorte de panthéon qui permettrait d'accueillir ces différents systèmes. Mais évidemment, à partir du moment où on rentre dans un panthéon, ça veut dire qu'on accepte autant légitime et aussi digne de confiance des systèmes qui peuvent nous apparaître comme impliquant des actes contraires à la dignité de l'être humain et au bien humain. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le vecteur, disons, patriotique et le fond commun, finalement, de morale chrétienne qui existait dans les années 1880 ayant en fait disparu, ces valeurs de substitution sont des valeurs dans lesquelles l'être humain est vu comme sa propre mesure et où finalement chacun peut déterminer son bien. Cette religion laïque est une manière de consacrer, par tout le biais du pouvoir qu'exerce l'école, d'imposer par ce biais de l'école une forme de religion relativiste.
Quels critères pour discerner la valeur morale d'un comportement ? Est-ce qu'il y a des critères dans cette morale ?
Alors, dans la morale de Vincent Payon, finalement, le seul critère, c'est, on pourrait dire, la tolérance, c'est-à-dire le fait que le déploiement de ma propre vie n'ait pas d'effet négatif sur le déploiement de la vie d'autrui. Enfin, ça, c'est un critère très formel, parce que concrètement, que ce soit dans l'avortement ou que ce soit dans l'euthanasie, on voit bien que le déploiement d'une liberté individuelle, soi-disant mesure d'elle-même, a forcément un impact sur l'autre, sauf que l'autre est vu comme n'ayant pas de dignité ou comme étant à lui-même son propre critère de dignité. Donc, il me semble que là, le véritable critère, c'est justement de réfléchir sur ce qui est vraiment bon pour l'être humain. Tous les êtres humains désirent le bien, mais on désire un vrai bien, c'est-à-dire un bien qui permette d'accomplir nos capacités proprement humaines. Et donc, en fait, il me semble que là, il y a un défi très important pour l'école, et notamment pour les écoles catholiques, de retrouver une véritable éthique de la vertu, c'est-à-dire une éthique qui permette aux êtres humains de déployer pleinement leur humanité en pouvant, par leurs actes, peu à peu, poser des actes qui, justement, vont leur permettre de déployer leur désir profond lié à leur nature humaine. Et donc, là, on voit bien comment l'éthique présuppose et implique une réflexion sur ce qu'est l'être humain et sur ce qui fait qu'un être humain est un être humain.
Et c'est l'heure de retrouver le père Pascal Montavi pour le commentaire de l'évangile de ce dimanche 23 février, le 7e du temps ordinaire. C'est l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 48. « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. »
L'évangile de ce jour continue de nous présenter, comme les dimanches précédents, le discours de Jésus sur la montagne selon l'évangéliste Matthieu. Cette fois-ci, Jésus nous parle de la vengeance et de l'amour des ennemis. Voyons cela de plus près. Jésus dit « Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants, mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. » Cette sentence de Jésus mérite d'être bien expliquée. Tout d'abord, rappelons-nous ce que Jésus lui-même a dit lorsqu'un des gardes lui donna une gifle alors qu'il comparaissait devant le grand prêtre. « Si j'ai mal parlé, témoigne de ce qui est mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Jésus n'a donc pas tendu l'autre joue, mais il a demandé une explication à celui qui le frappait. En cela, Jésus montre que la maxime « œil pour œil, dent pour dent » est dépassée. À une agression physique, Jésus répond seulement verbalement pour inciter son agresseur à réfléchir sur la portée de son acte. Mais si donc il ne convient pas d'interpréter littéralement cette parole de Jésus, comment faut-il la comprendre? Elle est certainement une invitation à pardonner sans cesse ou, pour reprendre une expression de Jésus lui-même, à pardonner 77 fois 7 fois. Il s'agit donc de ne pas riposter aux méchants, de ne pas répondre à l'agressivité par l'agressivité, à l'injure par l'injure. C'est en renonçant à la vengeance que l'agresseur pourra se trouver confondu. Mais force est de reconnaître que tel n'est pas toujours le cas. Parfois, ajouter une parole, dite paisiblement, peut aider à faire tomber l'agressivité ou à faire prendre conscience à l'agresseur de ce qu'il fait. C'est ainsi que Jésus a agi lorsqu'il a interrogé le garde qui le frappait. Jésus dit encore « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. » Par ces paroles, Jésus met la barre très haut. Il nous invite à être parfaits comme notre Père céleste est parfait. Cette affirmation montre aussi que le Seigneur prodigue son amour à tous les hommes sans exception. Il n'est pas inhabituel de voir certains chrétiens penser que Dieu les a abandonnés ou qu'ils sont défavorisés par rapport aux autres. Mais le Seigneur donne à chacun tous ses bienfaits. S'il est vrai que certains reçoivent plus de talents que d'autres, chacun reçoit cependant de manière suffisante pour entrer dans la plénitude du Maître. Une autre particularité de cette parole de Jésus est qu'il dit « afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux ». C'est donc que notre filiation vis-à-vis de Dieu demande à être accomplie. Bien sûr, nous sommes tous créatures aimées de Dieu. Mais pour être fils de Dieu, il nous faut recevoir l'Esprit Saint qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». Cette notion est importante. Par le baptême, nous devenons réellement fils et filles de Dieu. Cette réalité ne peut être défaite, contredite, mais elle peut devenir de simples mots qui n'ont pas de conséquences dans notre vie quotidienne. En ce jour, prions pour être vraiment les fils de notre Père qui est aux cieux, en acceptant de renoncer à la vengeance et en priant pour nos ennemis.
» Et c'est sur ce commentaire de l'Évangile que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet à l'adresse www.radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican. En français, bon dimanche à tous.